Vous expliquez que les pauvres seront sauvés dans notre monde, et du coup, dans le monde actuel, vous en désintéressez un peu. Voilà. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Est-ce que ça vous... Voilà, vous avez envie de réagir à ça ?
Alors peut-être que la première partie de la question s'adresserait peut-être aux biblistes, ou à Claire, plus spécialiste de la tradition juive, je ne sais pas. Mais à qui s'adresse la question exactement ? Aux deux. Alors, Claire, tu es à l'origine de cette...
Justement, de ce proverbe,
les pauvres, c'est oui. comme un pauvre, c'est comme un mort.
Un pauvre, c'est comme un mort. Je ne l'ai lu nulle part. Il y a tellement de choses. Et moi, j'ai quand même cité aussi des passages de la tradition juive où les pauvres sont considérés comme la part de Dieu. Hein. Alors voilà. En tout cas, simplement, ce que je peux dire aussi dans la tradition juive, et ça revient à ce que disait le frère Augustin tout à l'heure à propos des riches, réjouissez-vous d'être riches parce que vous avez la grâce de pouvoir aider les pauvres. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, c'est la seule raison de se réjouir quand on a des richesses, c'est qu'on va pouvoir les partager. Voilà. Et ça, c'est dans la tradition juive, pas écrit exactement comme ça. Et il y a aussi quelque chose dans la tradition juive qui est très beau. Quand vous faites l'aumône à un pauvre et que vous célébrez une fête où on demande à l'occasion de cette fête de pouvoir faire l'aumône. Donc vous faites une double aumône au pauvre. Vous lui donnez ce dont il a besoin et vous lui donnez en plus pour qu'il puisse lui-même faire l'aumône. Parce que faire l'aumône, c'est un don de Dieu. Voilà.
Le Christ dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades ». Et comme vous avez étudié les textes, quel est le terme à l'origine en hébreu ? Est-ce que ça englobe aussi la pauvreté d'une manière ou d'une autre ?
En tout cas, c'est plutôt du grec, là, même si ça a peut-être bien été écrit en araméen, j'en sais rien. Mais en tout cas, la pauvreté, c'est tous ceux qui sont en manque de quelque chose. Alors, quelqu'un qui est en manque de santé, c'est considéré comme un pauvre. Bien entendu, les malades sont des pauvres. Voilà. Oui, ça inclut, bien sûr.
C'est à frère Augustin que je voudrais poser une question. J'ai pas bien compris quand tu as fait allusion à ton voyage, donc en disant les jeunes Américains bronzés. Bon, l'image est intéressante, mais c'est pas le propos. Et puis après sœur Teresa et un peu ces gouttes d'eau, si tu veux, de ce genre de de rencontre. J'ai un peu zappé une pensée profonde à garder pour moi.
Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un mystère de la pauvreté qui se noue, je pense, autour de la première béatitude. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Enfin, le père Henri que je citais au début disait, on est face à des paradoxes hein, quand on parle de la pauvreté. Et alors, quand on est religieux et qu'on a fait un vœu de pauvreté, on le ressent en soi. Vous voyez, encore davantage. Hein, on le porte en soi, d'une certaine manière. Et à la fois, il y a une illusion à croire qu'on va régler qu'on peut régler les problèmes de la pauvreté, éradiquer la pauvreté, etc. Et en même temps, il faut se donner, il faut y aller, hein, et y aller d'une manière chrétienne. Pour ça, pour aller dans le sens de ce que vous disiez aussi, c'est évidemment c'est terrifiant de penser quand des chrétiens ont pu théoriser, voyez, la pauvreté comme une espèce de fatalité à laquelle il fallait consentir, hein, en se disant il y a le ciel après pour se rattraper, écoutez, laissez-moi barboter dans ma piscine, hein, et finir mon homard, et puis rendez-vous au paradis. Non, ça c'est terrifiant et ce n'est pas chrétien. Mais de la même manière c'est du même ordre que les justifications qu'on a pu donner au nom de l'écriture de l'esclavage, hein, pendant tout un temps. Alors il y a des états de compréhension dans la société, etc., qui historiquement permettent de le concevoir, hein, qui permettent sinon de justifier, du moins de comprendre certaines choses. Mais il y a quelque chose à faire, et en même temps il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment. Voilà, c'est ce que je je voulais dire. Il faut pas être, on est trop vite
présent,
candide. Oui. Et je vois, vous voyez, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont été liés à économie, humanisme, c'est un nom que j'ai cité plusieurs fois, mais l'histoire de ce mouvement est intéressante parce que on sent qu'il y a eu une espèce de grand élan autour de justement de l'idée qu'il y avait un lien entre ces deux questions, et puis qu'après on s'est au moment où on parlait des pays en voie de développement, du tiers-monde, etc., il y a eu une espèce de focalisation très nette sur les problèmes du développement, mais uniquement dans leurs aspects sociaux et économiques, sans prendre en compte la dimension spirituelle qui est pourtant intrinsèquement liée à ça.
Pardon, je voudrais, dans la suite de ce que vous venez de dire, à propos des problèmes de l'espoir qu'il y a eu dans le développement.
Oui.
Je pense par exemple à une ONG chrétienne qui est le CCFD. Mm-hmm. Est-ce que chez Saint Thomas, lorsqu'il se pose la question de l'aumône, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la pensée attribuée à Confucius ? Si quelqu'un a faim, apprends-lui à pêcher plutôt que lui donner un poisson.
Oui.
Est-ce qu'on le trouve, ça, chez Saint Thomas ?
Oui. Oui.
De quelle façon ?
Et il y a des choses, alors il faudrait que je cherche, mais il y a une haute conscience justement de la dignité du pauvre. Et aussi au fait que le pauvre puisse donner lui-même, après, hein, qu'il ait à donner aussi. Hein. Oui. C'est présent. Oui.
Je ne voudrais pas trop longtemps prendre la parole, mais simplement poser la question à propos de la phrase « Il n'y a de vraie réforme que par la pauvreté dans l'Église ». C'est que nous ne sommes pas encore en voie de réforme dans l'Église, nous, catholiques, et l'Église elle-même. Pour l'instant, même s'il y a des gestes de plus en plus forts, je veux dire par là que vous avez évoqué, frère, un moment où on garde pour ses descendants, il faut économiser parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, etc. Le langage de la plupart des catholiques se retrouve là. Et on est fasciné par la peur du manque. Et c'est une grande attitude de richesse aujourd'hui. Alors, il y a quelques pourcentages de personnes qui ne le suivent pas et qui sont des exemples. Il y a des communautés nouvelles, il y a des groupes, etc. Mais le moyen, la personne moyenne, dit toujours, mais enfin, vous comprenez, on n'a pas assez, etc. Et il faut reconnaître que dans le déploiement de l'activité du monde, c'est-à-dire tout ce qui est le consumérisme dont on a beaucoup parlé, c'est très tentant d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Or, dans l'Église, je viens dans le monde en général, mais dans l'Église, nous sommes très attentifs à cela. Mais il y a des pauvretés qu'on ne remarque pas. Il y a des gens qui peuvent être présents dans une église à la messe tous les dimanches, personne ne les remarque. La place des handicapés, la place des personnes malades, mais difficiles à rencontrer. J'ai été au moyen d'hôpital pendant 7 ans, trouver des bonnes volontés, c'est quand même très difficile. Le denier de l'église, quand on compare le pourcentage de ce que donnaient nos fidèles précédents dans les années 30 ou 50 à ce qui est donné aujourd'hui, il y a une baisse certaine. Et on me dit, vous comprenez, les circonstances actuelles ne permettent pas de... Voilà. Alors, il faudrait peut-être qu'on s'interroge davantage. Nous aussi, nous vivons très bien. Mon clergé reçoit 1135 euros par mois, c'est-à-dire le fixe et les messes. Mais c'est beaucoup pour une personne seule, célibataire, qui a bien d'autres avantages, logement, etc., gratuit. Je reçois la même chose, mais je trouve que nous sommes plutôt nantis. Quand on me dit « les prêtres sont pauvres », je dis « c'est faux ». Parce que vivre avec ça, et j'ai proposé, pour des raisons financières, de diminuer de 100 euros, ça a été un non catégorique. Alors nous n'avons certes pas fait vœu de pauvreté, chers frères, mais il faudrait quand même qu'on s'interroge. Quand on a une mère de famille, femme seule, qui élève 3 gosses et qui gagne 1000 euros par mois à la caisse de l'hypermarché, que faisons-nous, nous ? Voilà, à commencer par moi. Et pareil pour les migrants, mais c'est un autre sujet. Merci.
Oui, bonjour. J'avais une question sur Haïti et une autre sur Marseille. Sur Haïti, donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré Sœur Paisy ?
Non.
Non, alors Sœur Paisy, elle était chez Mère Teresa Et elle a fait comme Mère Teresa, mais à l'époque actuelle, donc elle a quitté son ordre, et elle vit maintenant dans la Cité Soleil, ce bidonville-là. Et en fait, cette pauvreté, nous, occidentaux, on la connaît pas. Alors, il s'agit pas de la connaître, forcément, mais comment est-ce qu'on peut devenir, dans la partie positive donc des choses, plus pauvre en soi et plus attentif, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas assez attentif aux autres. Comment on peut le devenir? Et à Marseille, comment on vit, en fait, au milieu des pauvres et surtout de ceux qui ne connaissent pas Jésus?
Bonjour, bonjour. Je rebondis sur cette réflexion et puis la vôtre aussi. Est-ce que la première des pauvretés, d'où découlent beaucoup des maux que nous pouvons dénoncer aujourd'hui, ne réside-t-elle pas dans l'absence ou le manque de connaissance de la parole au jour d'aujourd'hui chez nos contemporains et même parmi les chrétiens ou dans tous les milieux?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, parce que la cité où j'habite, bah, les gens, ils meurent pas de faim en France, bon, sauf qu'ils sont ceux qui sont à la rue. Mais là, ils ont un toit, ils mangent très très mal, n'importe quoi, mais bon, ils ont à la fois de quoi manger et se couvrir. Mais le manque de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Parce que la pauvreté culturelle et spirituelle, il y a de quoi pleurer. Parce que moi, j'habitais au Brésil. Il y avait la pauvreté matérielle, mais il y avait la joie et la recherche de Dieu. Et puis le lien avec Dieu, quoi. Dans les favelles du Brésil, c'était pas la même chose. Enfin bon, c'était il y a longtemps, peut-être que ça a changé. Mais nous, c'est terrible, quoi. La seule chose, si on veut gagner de l'argent, c'est de rentrer dans les circuits de drogue qui sont très très présents. Autrement, ils n'ont pas d'horizon, les gens. C'est ça qui est triste. Pas d'horizon, pas de réputation à défendre, pas d'argent, rien, quoi. Et surtout, ils sont dans un tel état que même la soif de Dieu, on la trouve plus. Et alors ça, c'est ça le plus désolant, quoi. Voilà. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec vous là. Alors, ben, on témoigne que Dieu existe, qu'il nous rend heureux, etc. Alors après, à la grâce de Dieu, pour le coup, voilà.
Alors, j'ajoute juste une petite chose. Vous disiez, est-ce qu'on manque pas de connaissance de la parole? Oui, on manque certainement de connaissance de la parole et de connaissance des exigences de la parole. Vous voyez, ce que fait saint Thomas, il bâtit pas un système. Vous voyez, pas plus que l'ont fait les pères de l'Église, et c'est pas intéressant, vous voyez, de faire une théorie de je sais pas quoi. Il tire lui, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre ce que Dieu nous révèle. Dieu parle, hein, il nous dit quelque chose de lui, il se montre, hein, en son Fils. Hein, donc on y accède notamment par l'Écriture. Hein, et qu'est-ce que ça exige de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande à travers ça, hein? Donc en fait, saint Thomas, sa source, si vous voulez, c'est en grande partie l'Écriture, c'est l'enseignement de l'Église, hein, c'est rien d'autre. Hein, c'est ça qui l'intéresse. Hein, c'est pas de bâtir une belle théorie. Et ça, on ne le voit pas assez. Voyez, et on ne le sait pas assez, on ne le comprend pas assez, on n'y réfléchit pas assez. Et c'est sûr que ça commence d'abord par la connaissance de la parole. Ça, je pense que c'est essentiel. Oui, puis pour Haïti, je ne sais pas comment vous répondre, parce qu'il y a... si vous voulez, moi, si j'y suis assigné demain, on a un couvent à Port-au-Prince, un petit couvent. On est riche, hein. Qu'on soit haïtien, dominicain de la province de Toulouse, et j'y serai toujours riche, hein, parce que j'ai une famille religieuse, j'ai une famille de sang, et donc il y a quelque chose qui si vous voulez, qui crée une barrière. En même temps, c'est la charité est unitive, l'amour est unitif, nous unit aux autres, hein, et c'est ça qui compte. Et il faut pouvoir aimer et aimer des personnes, pas un tas de chair en face de nous, pas des troupeaux de gens, mais aimer des personnes en face et dans cet amour pouvoir donner l'aumône qui correspond à ce que l'on à l'aumône qu'on peut apporter. Hein. Voilà. Alors bon, je ne veux pas développer, mais je pense que... Vous voyez, une des choses que font nos frères à Port-au-Prince aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est accompagner des jeunes haïtiens qui correspondent un peu à une élite universitaire, pour un bon nombre d'entre eux, des jeunes médecins, etc., qui y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de la jeunesse dominicaine, hein, qui compte 250 membres, et ce sont des jeunes qui souhaitent rester en Haïti. Hein, et pour, vous savez, quand vous êtes médecin, là, j'ai préparé au mariage la semaine dernière, exactement il y a une semaine, à demande d'un frère, je prépare au mariage un jeune couple, lui est gynécologue, il termine ses études, elle est pharmacienne, hein, ils sont haïtiens, ils ont beaucoup travaillé pour leurs études, ils veulent s'installer, enfin, du travail en Floride, au Canada, en France, hein, ils en trouveront. Hein, où ils gagneront décemment leur vie. Là, ils se condamnent à une vie qui sera de ils vivoteront, hein, au plan du bien-être matériel, mais ils veulent rester en Haïti et à cause de Dieu. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir des raisons spirituelles. Il faut que ce soit ancré très profondément. Et nous, je pense que, enfin, je pense l'aumône qu'on peut faire, c'est cette aide, hein, pour découvrir les raisons profondes qu'on a d'aimer les gens, de les servir sur place, alors même que leur vie serait plus facile ailleurs, selon les critères, des critères matériels. Voilà, je le dis les choses trop rapidement, mais il me semble que c'est un peu de cet ordre-là.
Vous avez évoqué Sœur Claire, excusez-moi. Je sais pas si c'est
bon. Claire.
Voilà. Vous avez évoqué la question de la joie de vivre auprès de certaines personnes que vous avez rencontrées malgré leur pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il serait important de circonscrire davantage, vous l'avez évoqué, mais le sentiment d'exclusion que ressentent ces personnes dans la pauvreté, parce qu'il n'y a même plus de possibilité de partage pour elles. J'ai retenu trois mots très importants dans ce qui a été dit: dépouillement, renoncement, détachement au cours de la journée. Je voudrais revenir sur le fait que les pauvres ont beaucoup de choses à nous apporter. Justement, en n'ayant rien, pour ceux qui ne sont pas dans l'exclusion, ils ont encore des capacités de nous apprendre à aimer leurs enfants en n'ayant rien. Ils n'ont rien. Les mamans nourrissent un bébé tandis que l'autre est encore attendu. Et elles ont une espèce de joie et d'amour sur leur enfant qui est... Voilà, et j'ai envie de partager cette joie, cette attention des mamans vis-à-vis de leurs enfants que des femmes aujourd'hui ne sont plus capables de donner à leurs enfants. Et pour moi, c'est vraiment la pire des pauvretés, ne pas savoir aimer.
Non, mais c'est sûr, et justement, moi... Il y a des pauvres en France où on voit bien que la pauvreté et la misère engendrent plutôt le vice que la pauvreté. J'ai pas le temps de tout dire, mais la misère engendre souvent le vice quand on n'a plus rien à perdre. Voilà, vous voyez ce que ça peut engendrer. Alors il faut aussi avoir conscience de ça. Il faut demander au Seigneur que les pauvres deviennent vraiment des pauvres et que nous aussi on devienne des pauvres. Mais voyez dans quel sens. Parce que moi, je peux dire que l'environnement dans lequel je vis, c'est plutôt ça. C'est plutôt de ce côté-là, vous voyez. Mais bon, cela dit, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas d'agenda, c'est très reposant déjà. Voilà. Voilà.
Oui, c'était pour savoir si vous pourriez nous dire un lien entre pauvreté et prière. C'est vrai qu'en étant en mission auprès des indigents, on se rend compte qu'ils ont une soif aussi de prière. C'est assez surprenant que c'est des gens qui sont misérables et qui demandent à ce qu'on leur apprenne à prier. Voilà. Et le lien avec la parole de Jésus: des pauvres vous en aurez tout le temps, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. Voilà. Merci.
Ben justement, les indigents au milieu desquels vous êtes et qui demandent qu'on leur enseigne à prier, ça c'est déjà des pauvres spirituellement, vous voyez, oui. Des pauvres dans l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, ça va de soi, parce que je vous disais que le prénom Lazare, hein, Lazare de Béthanie, Lazare de la maison du pauvre, ou Lazare et le riche, c'est celui qui met son secours en Dieu seul. Donc Normalement, c'est des champions de prière, les pauvres. Quand ils désirent prier, ils deviennent des modèles de prière. Parce que pour eux, leur seul espoir, c'est Dieu. Ce n'est pas leur richesse, ils n'en ont pas. Ce n'est pas leur réputation, ils n'en ont pas, etc. Et c'est ça, ils sont vraiment un modèle pour nous. Moi, j'ai connu une dame au Brésil, elle était exceptionnelle par rapport à la vie de prière et elle n'avait rien. Donc moi, je pense que c'est des modèles de prière, enfin, il me semble.
Oui, je pense. Enfin, moi, j'ai souvent reçu le témoignage. On a quelques frères qui sont aumôniers de prison. Hein, et vous voyez, la prison, ça abîme. Hein. La prison longue, ça abîme. Hein. Et les frères sont très frappés justement de la disponibilité de nombre de prisonniers, hein, à une parole sur Dieu. Parce que, si vous voulez, vous avez parce qu'ils sont dépouillés malgré eux, hein, de leur liberté d'aller venir, d'un tas de choses, et ça laisse la place, hein, ça libère autre chose et ça ouvre à Dieu. Or, nous sommes capables de Dieu. Il n'y a pas un homme qui n'ait en lui cette orientation foncière, fondamentale à Dieu. C'est pas seulement quand on est chrétien, hein, qu'on est capable de Dieu. C'est parce qu'on est homme. Et je pense que il y a des conditions de pauvreté subies, hein, même de pauvreté involontaire, qui réveillent ces capacités et qu'il faut accompagner et nourrir. Les aumôniers, notamment de prison, sont des grands dispensateurs de chapelets. Et parce que le chapelet, vous savez, c'est une prière de pauvre. Mais vous tenez quelque chose dans la main. Vous voyez, ça vous aide à apprendre à prier. Il y a quelque chose de concret, hein, tout simple.
Une dernière question. Brève. Question brève.
Oui, bonjour. Peut-être une question aux frères. Un reproche qui est souvent fait à l'Église institution, plutôt pour le passé, c'est la splendeur des bâtiments. Donc on entend parfois qu'au Vatican, il y a la plus grande concentration d'œuvres d'art au mètre carré. On connaît les choix du pape François pour son lieu de vie, choix que n'ont pas fait tous ses prédécesseurs. Quelle réponse ajustée peut-on faire à ce genre de remarques?
Les appartements d'entier,
oui, c'est ça. C'est pas si le pape considère que les tableaux et les richesses qui sont dans les musées du Vatican sont bien propres, ça va pas du tout. Alors il peut faire déplacer des tableaux. Il peut. Je me suis souvent dit que si j'étais pape, j'irais. Si j'étais élu pape, mais la perspective s'éloigne au fur et à mesure que je vieillis. Eh bien, j'irais faire un tour dans les galeries et puis je choisirais de quoi décorer mon bureau. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Vous voyez. Et donc je pense que c'est un bien commun. Il faut le considérer vraiment comme ça. Je pense que c'est ça. Après, il y a des conditions historiques, et puis moi je suis pour qu'on construise des belles églises, qu'il y ait des belles œuvres d'art, etc. Hein, c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pourrait passer des heures, oui, je pense, hein, à parler justement de ce verset « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous », hein, parce que c'est lié quand même au don, hein, d'un parfum qui coûte une fortune. Une fortune.
Voilà. Une année de salaire.
Une année de salaire. Hein, et Jésus lui a pas dit, elle n'aurait pas dû le faire. Elle aurait pu en faire autre chose. Au contraire, il donne tort à ses apôtres. Alors, ce texte est explosif à manier. Hein.
Mais... Si je peux répondre très vite, pour les biens de l'Église, d'abord, les églises que nous évoquons pour la France, en tout cas, 90% n'appartiennent pas à l'Église, depuis la loi de 1905. À l'État pour les cathédrales, dont une par diocèse, et par toutes les églises aux communes, sauf celles qui ont été construites ensuite. C'est d'ailleurs une grosse difficulté, mais en voulant nous nuire, l'État de l'époque nous a fait un grand bien. Parce que si on avait tous ces bâtiments, je ne sais pas qui les entretiendrait. Bon. Deuxièmement, on parlait des biens du Vatican, etc. Mais là, c'est pareil, c'est un bien mondial. On ne peut pas le faire disparaître comme ça. Le pape François a pris une décision de vie pour aller vivre à Sainte-Marthe. Sur le moment, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, c'est un signe signe de pauvreté. Oui, c'est un signe. Oui. Mais dans la réalité, il vit aussi au Vatican, puisque tous les jours, il y va pour recevoir des chefs d'État, des personnalités, etc. Donc, si on fait le compte matériel, c'est plus le signe que la dépense. Il n'a pas fait des économies substantielles en faisant ça. C'est comme moi, si je ne vivais pas dans mon évêché, que j'aille habiter dans une HLM de 3 pièces et que je revienne tous les jours travailler à l'évêché, ça coûterait à peu près aussi cher. Et je vous assure que ce n'est pas très amusant parfois de vivre dans une grande maison qui a besoin de travaux, etc. D'autre part, ces biens doivent avoir une fin. Le bien qu'on a, quelle est sa finalité? Est-ce que ça aide les pauvres? J'abrite 45 personnes, mais essentiellement beaucoup d'enfants, dans des logements du diocèse, qui sont des gens venus de la migration. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Si j'avais pas ces bâtiments, je ne pourrais pas le faire. Et je le fais par suppléance des autorités locales qui ne le peuvent pas. Alors, et ça nous coûte cher aussi par ailleurs. Donc, on a besoin d'une certaine liberté. Mais en même temps, il faut, et que la réforme passe par là, que nous soyons très attentifs à ne garder que les biens nécessaires, d'une part. D'autre part, à ne pas thésauriser. Parce qu'il y a des lieux, des diocèses, des congrégations qui thésaurisent. Et de parvenir à un échange, ce qui n'est pas demain, la veille. Un échange, je veux dire par là que les diocèses très pauvres devraient être aidés par les diocèses très riches, aussi bien en prêtres, en personnel, qu'en argent. Et que nous devions avoir une beaucoup plus large fraternité dans la réalité de l'argent. Et ça, c'est difficile à admettre. C'est comme dans les familles catholiques qui ont des voisins qui n'ont pas beaucoup. C'est comme dans les héritages, c'est comme dans tout ça. Donc ça veut dire que nous devons nous convertir, nous, à la pauvreté. C'est un rude chemin. Voilà, bon courage.
Merci.